Camille Magnard, la revue de presse internationale, bonjour. Ce matin, vous nous proposez un peu de lecture. Alors, c'est un peu de lecture au sujet d'Emmanuel Macron avant qu'il ne reçoive le patron de Facebook à l'Élysée.
Et oui, puisque Mark Zuckerberg est attendu à 15h chez notre président de la République. Les deux hommes devraient discuter de la nécessaire régulation des contenus charriés par le réseau social. Facebook accusé, on le sait, de donner une chambre d'écho mondiale à des propos haineux ou à des campagnes menées pour influencer des élections démocratiques. Et c'est justement de cela dont parle un long article qui a fait sensation depuis sa publication hier dans le New York Times. Cet article, on le trouve dans les pages Opinion du journal américain. Et s'il fait sensation, eh bien, c'est en partie parce qu'il est signé Chris Hughes, lequel se présente lui-même dans cette vidéo introductive.
This is me back in my college days. And this is my roommate Mark.
Chris Hughes explique qu'il y a 15 ans, avec son camarade de chambre et Mark, à Harvard, ils ont créé ensemble Facebook dans leur chambre d'internat. On connaît la belle histoire, mais depuis, nous dit Hughes, j'ai l'impression que notre création est devenue trop grosse et trop puissante. Et c'est donc tout le propos de cette longue tribune qui met les choses au point dès son titre. Il est temps de briser Facebook, sinon de le détruire, au moins de le démanteler. Trop grosse, trop puissante, l'entreprise le serait devenue quand elle a racheté et intégré progressivement ses concurrents. Instagram et WhatsApp. Depuis, la machine est devenue incontrôlable, un peu comme son boss, en fait, écrit Chris Hughes. Il assure qu'il pense beaucoup de bien de son ancien ami d'Harvard, mais que ce sont ses qualités humaines qui rendent aujourd'hui la gouvernance de Facebook problématique. Mark Zuckerberg a trop de pouvoir aux commandes des trois réseaux sociaux intégrés, et donc trop d'influence sur la vie des milliards de terriens qui utilisent ces réseaux chaque jour. En ayant la main sur les algorithmes, c'est lui, Mark Zuckerberg, indirectement, qui décide de quels messages, de quels amis vont apparaître sur les murs de ses abonnés. Il est donc l'architecte du prisme par lequel ces derniers voient une partie plus ou moins grande de leur vie sociale au quotidien. Et face à ce Mark Zuckerberg dépeint en démiurge du réseau social, il y a bien peu de garde-fous, alerte également Chris Hughes, donc dans le New York Times. Il accuse son ancien colocataire d'avoir sacrifié la sécurité et la vie privée de ses clients en plaçant la croissance de ses entreprises avant toute chose. Alors, eh bien, il faut en finir avec ce système devenu fou, nous dit en substance Hughes, le repenti, qui appelle le gouvernement américain à mettre Zuckerberg face à ses responsabilités, à utiliser les armes juridiques existantes pour stopper sa domination, à commencer par les lois qui existent depuis 1890 aux États-Unis pour casser les monopoles, car c'est bien de cela dont il est question. Casser Facebook, séparer les trois réseaux sociaux pour les rendre à leur concurrence originelle, si tant est que celle-ci puisse assurer une forme d'autorégulation. Voilà donc pour le règlement de compte entre camarades de chambre et d'Harvard. Vous voyez, Guillaume, qu'il y a de quoi susciter le débat tout à l'heure à l'Élysée.
Et puis, il y a un autre débat sur lequel Emmanuel Macron s'est prononcé hier, mais n'a apparemment pas convaincu une partie de la presse arabe. Camille, c'est le bien fondé de la vente d'armes françaises à l'Arabie Saoudite.
Ouais, j'assume, a déclaré le président hier soir. Il assume le fait qu'un navire saoudien est en ce moment en train de prendre livraison de 8 canons d'artillerie de type César, fabrication française, vendu donc à l'Arabie Saoudite qui, selon des informations confidentielles défense révélées il y a un mois par Disclose et par la cellule d'investigation de Radio France, utilise ces armes françaises pour frapper le Yémen où, on le rappelle, près de 5000 civils ont été tués depuis le début du conflit qui fait rage là-bas. Mais le chef de l'État français a beau assumer ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, la position française sur le conflit au Yémen n'en reste pas moins intenable, selon The Middle East Eye. Le respect des contrats signés invoqué par la ministre des Armées Florence Parly pour justifier cette livraison du Havre. Cette raison commerciale ne suffit pas, selon le média en ligne, pour faire oublier les questions posées par des ONG comme Amnesty International. Question sur le fait que, s'il est bien avéré que ce sont des canons César qui vont être chargés sur le cargo saoudien, eh bien alors, le traité international sur le commerce des armes, traité que la France a signé et ratifié, semble bel et bien violé. Emmanuel Macron affirme avoir reçu des garanties de la part des Saoudiens qu'ils n'utiliseront pas les canons français contre des civils yéménites. Ça ne convainc pas vraiment non plus The New Arab, autre site spécialisé sur la région, qui s'interroge sur la justification mise en avant par le président français sur le fait que la coopération avec l'Arabie Saoudite est essentielle en matière, nous dit-on, de lutte contre le terrorisme. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la guerre au Yémen, mais ça permet de couper court au débat. Je précise, car c'est important, que les deux journaux en ligne que je viens de citer sont liés financièrement au Qatar, qu'ils sont donc plutôt critiques avec l'Arabie Saoudite. Mais force est de constater qu'ils sont à peu près les seuls à s'emparer du sujet, à l'exception peut-être des journaux belges. Et oui, une enquête du quotidien Le Soir, datée d'hier, démontre que notre voisin est soumis aux mêmes critiques que la France. Avant de faire escale au Havre, le cargo saoudien s'est arrêté dans le port belge d'Anvers. Des armes fabriquées en Wallonie tuent au Yémen, titrait hier nos confrères du Soir.
Enfin, une guerre de position, un siège même, se déroule en ce moment au cœur d'une banlieue de Washington.
Et c'est El País qui nous raconte cette guerre froide miniature, cette reproduction de la crise politique qui se déroule à quelques milliers de kilomètres de là. On parle bien sûr de l'ambassade du Venezuela à Washington. Elle est occupée, cette ambassade, à l'intérieur par des fervents défenseurs du régime chaviste de Nicolas Maduro. Et elle est encerclée à l'extérieur par des dizaines de soutiens, cette fois de l'opposition et de son leader autoproclamé président, Juan Guaido. Ça fait des jours que ça dure, nous dit la correspondante d'El País dans la capitale fédérale, et les autorités américaines s'en mêlent désormais. En plus de déployer la police pour éviter un affrontement direct, elles ont commencé hier à couper l'électricité de l'ambassade. C'est leur manière de soutenir les pro-Guaido, puisqu'on sait que les États-Unis ont reconnu ce dernier comme président du Venezuela. C'est aussi une manière d'assiéger l'ambassade, de tenter de faire craquer ses occupants, puisque les opposants qui se trouvent autour du bâtiment essayent déjà par tous les moyens d'empêcher les ravitaillement. C'est un peu en fait comme si on recréait Caracas à l'intérieur de l'ambassade jusqu'aux pénuries d'électricité et de nourriture. Les pro-Guaido et leurs alliés américains se disent convaincus que désormais privés de courant et donc de moyens de communication avec l'extérieur, les maduristes forcenés n'en ont plus que pour quelques heures avant de devoir sortir de l'ambassade. Apparemment, c'est beaucoup plus compliqué à l'échelle d'un pays du côté de Caracas.